en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
En 1982, Françoise Héritier succède à Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Celle qui ne connaissait rien de l'ethnologie, alors étudiante en histoire en 1954, se retrouvait, moins de 30 ans après, aux côtés de l'homme qui lui avait donné cette passion. Je vous propose d'écouter son regard, quelques passages de vie sur Lévi-Strauss. Madame Héritier, quelle est votre première image de Claude Lévi-Strauss ?
Elle est ancienne. Elle doit dater des années... Je ne saurais préciser exactement, disons 1954 ou 1955. Il enseignait comme directeur d'études à la 5e section de l'école pratique des hautes études, et c'est-à-dire qu'il était en sciences religieuses. Bon. Et il faisait des séminaires, on appelait ça des séminaires et non pas des cours, extrêmement intéressants à la Sorbonne, dans une aile de la Sorbonne, et très ethnographique. Totalement désorientant pour l'étudiante que j'étais en histoire et en géographie. Parce que contrairement à beaucoup de mes collègues ethnologues, je ne viens pas de la philosophie ni des lettres, je viens d'études d'histoire et de géographie. Et j'ai découvert l'ethnologie grâce à des camarades qui avaient découvert Lévi-Strauss avant moi, qui m'ont emmené par curiosité suivre ses cours, et je n'en ai pas décroché tellement j'étais passionnée. Et c'était un homme qui me paraissait vieux, alors même qu'il était jeune, il avait une cinquantaine d'années même, j'avais 21-22 ans, et donc cet homme de 50 ans me paraissait très âgé alors qu'il était jeune. Il me paraissait très impressionnant, extrêmement savant, extrêmement austère, et surtout travaillant dans des domaines qui m'étaient totalement fermés, imperméables, inconnus. Pas seulement qu'il m'était imperméable, il m'était inconnu. Je ne savais pas que l'ethnologie existait. Elle existait, bien sûr, comme discipline, mais elle n'était pas enseignée à l'époque dans les universités. C'est seulement par la suite qu'il y a eu un enseignement formel. Elle n'était pas enseignée. Et j'ignorais donc l'existence de l'ethnologie. Et j'ignorais l'existence de peuples pouvant avoir des manières de penser, des manières de vivre radicalement différentes des nôtres. Maintenant, cela paraît très stupéfiant, mais il ne faut pas oublier que la télévision n'existait pas, qu'on ne voyait pas tellement de documentaires sur des sociétés dites exotiques, et donc nous étions tenus dans une espèce de bienheureuse et béate ignorance de ce que le monde pouvait recéler comme trésor. Et là, tout d'un coup, j'avais des trésors étalés sur la table et dans lesquels il n'y avait qu'à fouiller un peu pour les trouver et s'y intéresser. Donc c'est comme ça que j'ai connu Lévi-Strauss. Et c'est comme ça d'ailleurs que, voyant mon intérêt pour la discipline, il m'a proposé une première mission sur le terrain grâce à un de ses collègues qui cherchait un jeune ethnologue et un jeune géographe pour partir en Haute-Volta pour une mission d'anthropologie appliquée. Et je représentais le jeune géographe. J'ai eu quelques difficultés au départ parce que les gens du gouvernorat général de l'AOF, c'était ça à l'époque, ne voulaient pas d'une fille, ils voulaient un garçon. Mais comme il n'y avait pas de garçon qui s'est présenté, ils m'ont quand même pris et ça a été mon pied à l'étrier, si vous voulez.
Il déclenche une passion de l'ethnologie chez vous. Vous faites quoi ensuite après que cette passion est claire et nette pour vous ?
D'abord, je renonce à mes projets initiaux, ce qui est quand même important.
Donc vous bifurquez complètement ?
C'est-à-dire que je m'étais proposé de faire de l'enseignement d'histoire et de géographie avec l'idée, si j'avais beaucoup de chance, de faire de la recherche historique, mais dans des domaines très particuliers. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire ancienne et surtout l'égyptologie. J'aurais aimé être égyptologue. Bon. Comme j'étais assez modeste, je ne savais pas trop comment m'y prendre et je ne voyais pas vraiment le moyen d'arriver à mes fins. Mais enfin, c'était un rêve, si vous voulez. Un rêve qui a une certaine importance parce que ça montre que je m'intéressais davantage aux ailleurs et aux lointains qu'au maintenant et au régional, à notre région. Bon, et à notre monde régional. Donc je m'intéressais davantage à ce qui se passait autrefois. Donc d'une certaine façon, l'ethnologie arrivait à pic pour combler une sorte d'insatisfaction que me fournissaient les disciplines que j'étudiais, qui étaient tournées vers le passé, mais aussi tournées vers la compréhension du présent. Là, l'ethnologie me permettait de comprendre le présent, mais ailleurs, pas le mien, d'autres présents qui pouvaient d'une certaine manière m'éclairer sur le mien. Je pensais déjà, peut-être à juste titre, qu'on a une sorte d'aveuglement si l'on s'imagine, comme on se l'imagine régulièrement, que nos cultures représentent le point d'aboutissement d'une évolution qui est marquée par le progrès, nos cultures occidentales, et qu'elles sont, disons, le point de référence obligé pour toutes les autres. Et j'ai voulu faire ce détour.
Donc il déclenche une passion, vous étudiez à ses côtés par la suite ?
Oui, dans la mesure où, à mon retour, j'ai d'abord travaillé à l'Institut national d'études démographiques, où j'ai travaillé avec un médecin qui s'appelait Jean Sutter, il est mort maintenant, et qui avait travaillé aussi avec des ethnologues pour mettre au point des méthodes de compréhension de leur système d'alliance, des systèmes d'alliance des populations chez lesquelles ils travaillaient. Et notamment avec un ethnologue qui s'appelait Robert Gessin, qui travaillait chez les Inuits ou Esquimaux. Et Jean Sutter avait travaillé donc à l'élaboration d'une méthode mécanographique pour mettre en évidence les régularités dans les systèmes d'alliance qu'ils pratiquaient. Donc j'ai travaillé avec ce monsieur comme vacataire, si vous voulez, mais je continuais de suivre les enseignements de Lévi-Strauss. Puis je me suis présentée à l'École des hautes études, c'était la 6e section d'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, où j'ai été recrutée comme chef de travaux avec une tâche très particulière qui consistait à appliquer l'informatique à des méthodes de recherche documentaire. Et puis après, j'ai postulé au CNRS, toujours avec l'appui de Lévi-Strauss. Et quand je suis entrée au CNRS, j'ai été affectée à son laboratoire. Et donc, par la suite, j'ai travaillé directement avec lui. Comme, disons, j'avais eu la chance sur mes terrains, les différents terrains que j'avais pu faire au Burkina, de découvrir une société qui avait un système de parenté et d'alliance que nous appelons dans notre langage semi-complexe, mais disons que c'est peut-être pas la peine que j'explique pourquoi, qui se manifeste par une terminologie de parenté très particulière et des règles d'alliance qui sont fondées sur des interdictions très larges, qui très abondantes et très larges, ce qui pose le problème de savoir comment ils peuvent se marier, tout simplement s'ils doivent respecter toutes leurs règles. Et donc, il se trouve que Lévi-Strauss, son grand œuvre à l'époque, était les structures élémentaires de la parenté. Ensuite, il a travaillé sur des corpus mythiques, mais les structures élémentaires de la parenté, ce sont des sociétés, des structures où, au contraire, il ne s'agit pas d'interdiction, mais de prescription, où on dit qui on doit épouser. Et donc, on les appelle élémentaires pour cette raison, parce que les choix sont orientés et qu'il n'y a qu'une seule courbure, une seule inflexion générale de l'espace social. Donc, les autres, semi-complexes, c'est celles que j'avais découvertes, qui procèdent par des interdictions portant sur des groupes. Nous, nous sommes des structures complexes. Nous procédons par des interdictions portant sur des individus et non pas sur des groupes. On ne peut pas épouser tel ou tel cousin germain, si vous voulez. Bon. Et donc, Lévi-Strauss s'était arrêté après les structures élémentaires, mais il aurait souhaité que d'autres continuent à travailler sur les autres types de structures de parenté et d'alliance. Et moi, par chance, je revenais du terrain avec une société de ce type. Je me suis lancée dans la recherche d'enquête généalogique sur une série de villages, une enquête complète sur un certain nombre de générations. Et à partir des matériaux que j'ai rapportés, qui étaient importants numériquement parlant, j'ai conduit une enquête en utilisant, sur des hypothèses que j'ai fabriquées, en utilisant l'informatique pour apporter une solution à cet inconnu qui était la manière dont pouvaient bien fonctionner concrètement des systèmes de parenté, disons, représentés par des sociétés particulières qui ont des règles dont on ne comprenait pas comment leur agencement permettait qu'on puisse se marier à l'intérieur d'une même communauté géographique, ce qui était pourtant le cas. Donc j'ai continué l'œuvre de Lévi-Strauss au point où il l'a arrêtée, structures élémentaires. Moi j'ai travaillé sur les structures complexes et ce que j'ai découvert sur les structures complexes m'a d'ailleurs valu à l'époque la médaille d'argent du CNRS une époque où il y avait une médaille par département, donc la médaille pour les sciences de l'homme et de la société en 1978, si j'ai bonne mémoire.
On peut dire que le destin vous mène à Lévi-Strauss quelque part et au laboratoire d'anthropologie sociale. Pourriez-nous dire deux mots sur vos fonctions ?
Oui, c'est-à-dire que je suis donc restée dans ce laboratoire et j'étais au CNRS que j'ai quitté pour passer à l'école des hautes études afin d'enseigner. Et alors même que j'étais à l'école des hautes études, se posait la question de la, disons, de la présence de la discipline anthropologique au Collège de France, puisque Lévi-Strauss allait partir à la retraite. Il a donc présenté ma candidature, parce qu'on ne se présente pas soi-même au Collège de France, on est choisi. Donc il a présenté mon nom à l'Assemblée des professeurs pour être titulaire d'une chaire d'anthropologie sous un autre titre que la sienne, puisqu'il y était encore. La sienne, c'était anthropologie générale, anthropologie sociale. Et moi, j'ai eu une chaire d'études comparées des sociétés africaines et j'ai été élue professeur au Collège de France en 1981. Lui étant parti à la retraite en 1982 ou 83, et là j'ai pris sa suite comme directrice du laboratoire d'anthropologie sociale. Vous voyez, c'est un cheminement ainsi de la sorte. Donc j'étais professeur au Collège de France, directeur du laboratoire, j'y suis restée 18 ans, et puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai passé le flambeau à un de mes collègues historiens et anthropologues qui s'appelle Nathan Vachtel, qui est resté 4 ans comme directeur du laboratoire. Entre-temps, Philippe Descola a été nommé comme professeur, élu comme professeur, et il a pris ensuite la suite comme directeur du laboratoire. Voilà. C'est à deux niveaux. Il faut d'abord être élu, et puis être élu comme professeur, et puis ensuite on peut prendre la tête du laboratoire.
Lévi-Strauss vous soutient beaucoup ?
Lévi-Strauss m'a toujours soutenue. Je pense qu'il n'a jamais fait de distinction entre garçons et filles, entre hommes et femmes. Je ne dirais pas les équipes qu'il a animées, parce qu'il n'animait pas d'équipe, mais dans les groupes qui s'étaient constitués autour de lui. Et je dis qu'il n'animait pas d'équipe parce qu'il n'a jamais voulu faire créer une école avec des épigones qui lui ressembleraient et qui travailleraient à sa manière. Il a toujours laissé les gens libres de travailler le sujet qui les intéressait de la manière qui les intéressait. On n'était pas obligé d'être structuraliste avec Lévi-Strauss quand on travaillait dans son laboratoire. Moi, j'étais structuraliste parce que je crois en l'universalité des modes de raisonnement, des modes de pensée de l'humanité. Je crois que sur les mêmes butoirs qui se sont présentés à l'humanité se sont construits un certain nombre de modèles et que ces modèles sont universels, que la plupart du temps ce que l'on trouve c'est des invariants, c'est-à-dire des manières qu'a la pensée humaine d'associer des concepts entre eux, mais chaque société fournit des réponses qui lui sont propres. Mais ces réponses, on peut en faire un inventaire à la manière d'un tableau de Mendeleïev, mais par rapport aux questions qui sont posées. Donc je suis structuraliste, mais il n'attendait pas cela nécessairement des gens. Et je ne suis pas sûre que ce soit pour cela qu'il m'a choisi. Peut-être était-ce parce qu'il sentait ma ferveur pour l'ethnologie. Peut-être était-ce parce que je travaillais dans des domaines qui avaient été les siens, donc la parenté. Il le dit quelque part dans une interview qu'il s'était arrêté aux structures semi-complexes parce qu'il se sentait trop vieux dans les années 80 pour aborder des techniques dont il savait bien, qu'elles soient mathématiques ou informatiques, qu'elles demandaient un apprentissage qu'il ne se sentait plus la capacité de faire. Donc il se peut que ce soit aussi pour des raisons de ce genre. En tout cas, oui, il m'a toujours soutenue, alors même que fondamentalement, il n'est pas féministe, c'est pas le mot exact, mais je vais l'utiliser quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas pour intention première dans toute son œuvre de montrer le destin minoré des femmes par rapport au destin majoré des hommes, même s'il en a conscience, il le prend pour une sorte de nature des choses, enfin comme si cela allait de soi. Donc pour lui, quand les femmes sortent de leur destin naturel qui est d'être mère et de s'occuper de du domestique, eh bien il n'y voit pas d'inconvénient puisqu'il pense qu'elles ont effectivement les mêmes capacités intellectuelles. Mais ils pensent simultanément qu'il est normal qu'elles fassent plus d'efforts que les hommes puisqu'elles sortent de leurs conditions premières.
J'allais y venir puisque vous avez beaucoup écrit sur la domination masculine. Vos livres masculin-féminin sont très connus. Comment vous vous positionnez par rapport à l'entendement lévi-straussien, j'allais dire ?
Là, en l'occurrence, c'est une ligne, non pas de rupture, mais c'est un écart. Un écart qui a son importance sur le plan théorique, parce que le modèle lévi-straussien du social, qu'il a exposé dans un article célèbre, publié apparemment curieusement dans les annales de l'université d'Abidjan, et qui a été ensuite repris et publié aux États-Unis, puis retraduit en français, enfin qui a eu un destin un peu compliqué, mais qui naturellement est exposé de façon plus générale dans ton œuvre tout entière, y compris dans les structures élémentaires de la parenté, postule que le social a, disons, quatre pieds. Le premier, c'est un universel, un de ceux dont je parlais au début, qui correspond à un butoir, une sorte de ces idées essentielles auxquelles l'humanité s'est confrontée et a donné un même type de réponse. C'est l'idée que pour construire le social, il faut sortir de l'entre-soi, de la consanguinité. Donc si on imagine au début de l'humanité pensante, au début d'Homo sapiens, environ il y a 750 000 ans, disons, peut-être même avant, qu'il pouvait y avoir peut-être des humanités qui déjà étaient douées de compréhension et d'un minimum de langage, que la prohibition de l'inceste, c'est l'impossibilité désormais de prendre son conjoint, son partenaire sexuel et son conjoint dans son propre groupe consanguin. Et c'est des petits groupes de chasseurs-collecteurs. Donc ça implique d'aller les prendre ailleurs. Et aller les prendre ailleurs, ça veut dire dans d'autres groupes consanguins. Or, comme le faisait remarquer un anthropologue de la fin du XIXe siècle, un Britannique, Taylor, que l'humanité a dû choisir très tôt entre la nécessité de se marier à l'extérieur ou de se faire tuer à l'extérieur. Il voulait dire par là que les aléas démographiques pouvaient très bien faire qu'un petit groupe de consanguins était privé de femmes, que les femmes meurent en couche, meurent très tôt, qu'il n'y ait pas de petites filles, puis on se retrouve condamné à mourir parce qu'il n'y a pas de femmes, il faut aller les prendre ailleurs. Mais les prendre ailleurs, les autres ne vont pas laisser prendre leur stock féminin, donc ils vont se défendre, donc le risque de se faire tuer est très grand. Donc ça, c'est la base consciemment formulée par Taylor, telle que ce le seraient consciemment formulés nos ancêtres préhistoriques, qu'il fallait passer des accords entre groupes, et passer des accords entre groupes, c'est fondé sur la prohibition de l'inceste. Nous ne touchons plus nos filles et nos sœurs, c'est les hommes qui parlent, dans le modèle lévi-straussien, mais nous échangeons nos filles et nos sœurs contre les filles et les sœurs des hommes appartenant à d'autres groupes consanguins. Et de la sorte, nous créons des liens d'alliance entre groupes, et donc nous instaurons la paix. Alors, avec la prohibition de l'inceste, je viens de dire très vite la société et la paix, mais viennent obligatoirement l'obligation d'aller se marier ailleurs, qu'on appelle l'exogamie. Si on fait l'exogamie, c'est-à-dire l'union entre deux groupes, encore faut-il que cette union soit stable. Donc on va inventer un mode d'union stable que nous appelons par convention mariage. Mais le mariage, au départ, c'est pas entre deux individus, c'est un contrat entre deux groupes qui échangent entre eux des femmes. Parce que si l'un des deux mariages ne tient pas, l'autre ne tiendra pas. Donc les deux sont solidaires. Et puis ça s'articule également avec ce qu'il appelait la répartition sexuelle des tâches, c'est-à-dire qui font que à l'homme la chasse, à la femme la cueillette par exemple, qui rendent les deux sexes dépendants l'un de l'autre dans l'union. Avec ces quatre piliers, cela suffit pour instaurer la paix, l'harmonie sociale, disons, avec un certain nombre de groupes, avec lesquels, de groupes échangistes, comme ils les appellent. Et puis, ça introduit des liens économiques, des liens ludiques, des liens politiques, des liens de toutes sortes, des échanges de toutes sortes, et pas seulement des échanges matrimoniaux. Des liens ludiques, comme le disent très bien des sociétés primitives à leurs ethnologues, qui leur demandaient « Mais pourquoi vous n'épousez pas vos filles et vos sœurs ?» qui disaient « Mais si j'épouse ma sœur, j'aurai pas de beau-frère, et avec qui j'irai chasser ? Avec qui j'irai boire ? Avec qui j'irai m'amuser ?» Donc le lien de beau-frère, le lien d'alliance, devient un lien primordial, il sort de la consanguinité, c'est un lien entre hommes, et il suppose un lien social qui est au-delà du lien matrimonial, qui introduit des rapports d'autres types sur lesquels se fonde une société. Seulement, moi ce que j'ajoute à cela, c'est quelque chose qui existait, que Lévi-Strauss a bien vu, mais dont il ne tient pas compte pour établir son modèle, c'est que pour qu'il y ait cet échange des filles et des sœurs entre hommes, il fallait que les hommes aient la conscience de leurs droits, de leur pouvoir sur le corps de leurs filles et de leurs sœurs, et qu'ils avaient le droit de les échanger, et pas l'inverse. Ce n'est pas les filles qui échangent leurs frères entre elles. dans presque toutes les sociétés du monde, même s'il y a quelques exemples où on peut montrer que c'est un peu plus compliqué, où les femmes ont leur mot à dire, c'est les hommes qui échangent les femmes entre elles. Et c'était encore le cas dans nos sociétés occidentales il n'y a pas si longtemps, hein, encore au 19e siècle. Donc les pères décidaient du mariage de leurs filles dans la bonne société bourgeoise ou dans les bonnes sociétés paysannes. Donc le principe, c'est que la différence sexuée était une différence avec la domination d'un sexe sur l'autre. La hiérarchie existait entre les sexes. Un type de pouvoir particulier était exercé par un sexe sur l'autre. Mais que pour Lévi-Strauss, ce n'était pas important pour établir le modèle, alors que pour moi, ça l'est. Et que pour moi, c'est le point fondamental qui permet au reste ensuite de se tenir debout. S'il n'y avait pas cette domination, la prohibition de l'inceste n'aurait pas nécessairement joué sous la forme de l'échange exogamique comme il a joué avec des hommes qui échangent des femmes entre eux. C'est donc un point qui a même importance que les autres, sinon une importance supérieure. Donc c'est un écart, c'est un pas de côté. Je suis structuraliste, je cherche moi aussi à partir des butoirs pour la pensée et des modes opératoires rationnels de la pensée humaine qui sont les mêmes dans toutes les sociétés. Je cherche des lois, je cherche des invariants, mais j'y ajoute quelque chose qui pour Lévi-Strauss était tout à fait évident, était visible, mais paraissait d'essence tellement naturelle, c'est-à-dire inclus ancré dans la biologie, qu'il ne lui paraissait pas relever de l'analyse du social comme il l'a fait pour le reste.
Donc le livre masculin-féminin ne le dérange pas plus que ça ?
Nous n'en avons jamais parlé, donc je ne sais pas ce qu'il en pense. Je pense qu'au fond de lui-même, il ne peut pas nier la vérité de tout ce que j'ai dit, mais qu'il est vraisemblable que ça ne lui paraît pas qu'il resterait sur ses positions. Ma position, si vous voulez, c'est de considérer que cette différence sexuée, cette hiérarchie, est primordiale et qu'elle est fondatrice du reste. Et lui pense peut-être qu'elle est secondaire et que c'est le reste qui est fondateur. Donc,
dans quelle mesure vos livres ont été influencés par Claude Lévi-Strauss ?
C'est le mode de pensée structuraliste. Encore faut-il s'entendre par ce qu'on entend par structure. Je disais encore récemment que c'est un mot qui a été donné à une école de pensée et qui, d'une certaine manière, est un terme qui est relativement desséchant et qui peut expliquer aussi la raison pour laquelle un certain nombre de détracteurs de la pensée structuraliste, et notamment de la pensée de Lévi-Strauss, l'ont accusé de formalisme, de gommer tout ce qui est sensible, qui est de l'ordre de l'affectif, qui est de l'ordre du libre arbitre chez les individus. Lui s'en explique d'ailleurs très bien, en disant que tout dépend de la focale qu'on utilise dans un microscope, que l'on peut voir les objets, soit voir les petits animalcules qui sont dans une goutte d'eau, mais si on grossit davantage, on peut arriver aux molécules et peut-être même aux atomes, et qu'on est toujours dans la même goutte d'eau, mais que le point de vue a changé. Bon. Et que lui, il se situe à un point de vue tel où l'apparence de la culture de la société, comme l'apparence des individus insectes ou des individus humains, n'a pas vraiment d'importance. Et que le libre-arbitre devient simplement à ce moment-là une espèce de tourbillon aléatoire qui est noyé dans... où on peut voir apparaître des constantes, mais ces constantes nécessitent une autre focale que celle qui est utilisée quand on a l'impression que chacun agit de son propre chef. Donc Lévi-Strauss s'en est tout à fait expliqué, de même que sans avoir à s'en expliquer, moi je peux le laver de la critique, je ne suis pas la seule à le faire, d'être quelqu'un de totalement formaliste, car je ne crois pas qu'il existe beaucoup d'ethnologues qui aient comme lui une pareille connaissance intime, à la fois du terrain, bien sûr, même si ce n'est pas ce qu'il a fait le plus, mais une connaissance livresque des détails les plus concrets de chaque culture sur laquelle il étudie des mythes, par exemple, il sait absolument tout, aussi bien des dates des levées de la lune que la façon dont les individus se représentent tel ou tel animal ou les habitudes de vie de tel ou tel oiseau. Donc il est un très très bon ethnographe, en plus d'être un anthropologue. Donc qu'est-ce que j'ai tiré de lui ? Eh bien, un structuralisme, mais qui est différent du sien, parce que le sien cherche à mettre en évidence des structures, donc ce qu'on appelle des structures, qui sont des régularités dans des systèmes dans des ensembles de variations. Dans des variations. Si vous prenez un mythe, par exemple, que vous recueillez dans une société, pour m'en tenir à une de ses grandes expériences sur les mythes, vous prenez un mythe, vous allez retrouver le même dans un certain nombre de sociétés voisines et parfois assez loin, en Amérique, il a travaillé sur l'Amérique. Mais ces mythes, à chaque fois, parfois même d'ailleurs au sein de la même société en fonction des locuteurs ou des petites régions, vont présenter des différences. Et donc ce qui est important, c'est de faire la recension des différences pour, à partir de la recension des différences, faire apparaître la structure commune. Ce qui reste de commun à partir des différences individuelles. Et moi, si vous voulez, je suis structuraliste de cette façon, c'est-à-dire que je cherche à travers, dans l'anthropologie symbolique du corps, qui a été le thème de mon enseignement pendant les 18 ans que j'ai passé au Collège de France, je cherche notamment à mettre en évidence, au travers des différences que représente chaque société, pour des cadres que j'appelle invariants, qui sont des associations conceptuelles qu'opère l'esprit humain, donc qui sont meublées de façon apparemment totalement autonome par chaque société humaine, de mettre en évidence quelles sont les lois qui gouvernent tel ou tel choix, entre guillemets, qui est opéré par telle ou telle société, et donc de mettre en évidence, encore une fois, des régularités.
Vous qui avez approché Claude Lévi-Strauss, qui avez beaucoup travaillé à ses côtés, pourriez-vous nous parler un peu de l'homme ? Auriez-vous une anecdote ou tout simplement nous parler de sa personnalité pour mieux comprendre son œuvre ? Était-il plutôt un ascète, plutôt un homme libre ? Qu'est-ce qu'il aimait ? Qu'est-ce qu'il décourageait ? Qu'est-ce qu'il encourageait ?
C'est assez difficile de parler de Lévi-Strauss sans risque de se tromper, car c'est un homme qui a toujours présenté une façade. Et derrière cette façade, extrêmement impressionnante.
Vous étiez intimidée vous-même ?
Oui, j'étais intimidée moi-même. Je l'ai été, je continue de l'être, je le suis moins bien sûr, mais je continue de l'être. Ce qui est un des souvenirs par exemple les plus étonnants et les plus difficiles dans nos rapports, c'est le jour où il m'a dit, lorsque j'ai été élue au Collège de France, le jour où il m'a dit « Maintenant, Françoise », parce qu'il m'appelait Françoise et je disais « Monsieur », « Maintenant, Françoise, il faut que vous m'appeliez Claude ». Je suis une des rares personnes, sinon la seule au laboratoire, à l'appeler par son prénom. Bon, parce que tout le monde l'appelle « Monsieur ». Ce qui était très surprenant, notamment pour les anglo-saxons. Je me souviens de Rodney Needham, un collègue anglais, qui me demandait comment j'appelais Lévi-Strauss. À l'époque, je l'appelais monsieur. Il en était tout surpris, parce que tous les étudiants, tous ses collègues, l'appelaient Rodney, lui. On s'appelle par son prénom dans les milieux anglo-saxons. Là, mais vraiment, l'idée qu'un des membres du laboratoire ou un collègue quelconque puisse appeler Lévi-Strauss Claude était une idée totalement impensable. Donc, quand il m'a demandé de sauter le pas, parce que j'étais devenue son égale statutairement, j'entends statutairement, en étant professeur au collège, il m'a fait un grand honneur. En même temps, il m'a mise dans un grand désarroi parce que je ne savais plus comment lui parler. Je ne pouvais pas lui dire monsieur, puis le mot Claude ne sortait pas. Puis un beau jour, bon, il est sorti, mais enfin, je veux dire, ça m'a été extrêmement difficile. L'appeler par son prénom. Je suppose que même à l'Académie française, un certain nombre de ses collègues doivent comprendre ce que je suis en train de dire, à savoir cette espèce de respect immédiat qu'il impose à toutes les personnes qu'il rencontre et qui tient, je pense, à une forme non pas malheureuse d'être, c'est pas le mot qui convient, mais Lévi-Strauss est un homme qui, je crois, arrive à son 100e anniversaire en déplorant d'avoir eu à vivre si longtemps. C'est un homme qui a sur l'humanité en général une vision relativement misanthrope, et cette vision misanthrope tient à nos, non pas aux individus eux-mêmes pour lesquels il a de l'affection, mais au devenir global de l'humanité. Et la façon dont il la voit, c'est une humanité qui galope de façon vertigineuse sur le plan démographique, qui galope de façon vertigineuse vers l'épuisement des ressources de la Terre, qui galope de façon vertigineuse vers l'uniformisation et la mondialisation, toutes sortes de choses qu'il récuse fondamentalement. Et donc, ça lui donne une amertume, une façon, oui, amère, d'être par rapport à l'existence et par rapport aux autres, qui est tout à fait sensible. Dans la vie privée, je suis sûre que c'est un homme tout à fait délicat et extraordinaire, et que ses enfants et ses petits-enfants et son épouse le trouvent adorable. C'est pas ça la question, moi aussi je le trouve adorable. J'ai dit comment on est obligé de le voir dans les rapports professionnels extérieurs que l'on peut avoir avec lui, qui sont davantage d'une crainte fervente, d'une grande révérence, et aussi d'une forme parfois pour certains de terreur sacrée. Mais je l'ai vu rire. Je l'ai vu rire une fois. C'est une anecdote, je dis rire aux éclats, hein, rire vraiment aux éclats. Je l'ai vu rire aux éclats une fois et je faisais les frais de l'aventure. C'était quand j'étais candidate au CNRS. J'étais allée le trouver parce qu'il fallait faire des visites aux membres de la commission. Donc il devait être membre de la commission. Comme je travaillais un peu sous sa direction, même si ce n'était pas avec lui que je faisais ma thèse, j'étais donc allée le voir pour lui demander conseil. Et il travaillait dans des bureaux qui appartenaient à l'UNESCO, avenue Hoche, si je me souviens bien, dans un superbe grand hôtel particulier qui a été vendu récemment par les Monuments Nationaux. Et il m'avait reçu fort gentiment. Il devait avoir peut-être 55 ans. Encore une fois, il était un homme jeune, mais même s'il me paraissait très vieux, et j'étais étranglée littéralement d'émotion. J'écrivais tout ce qu'il me disait, je buvais ses paroles, et il me disait qui je devais aller voir comme membre de la commission, et il me dit d'aller voir notamment au Musée de l'Homme le père Pâle. Je connaissais le nom, il y avait des religieux hein, qui travaillaient en ethnologie, il y a eu des jésuites, il y a eu des dominicains, etc. Donc ça n'a rien d'étonnant, il me dit d'aller voir le père Pâle au Musée de l'Homme. Au département des parties molles. Il s'occupait d'anthropologie physique et des parties molles, et il était membre de la commission. Alors je prends note religieusement de toutes les personnes qu'il fallait aller voir, et à la fin, comme je ne connaissais pas ce monsieur, je lui demande quelques informations, s'il savait où je pouvais trouver les différentes personnes en question, et je lui demande où je pouvais rencontrer, et je dis ça très respectueusement, le père Pâle, parce que pour moi, c'était un révérend père. Et c'est là qu'il s'est mis à rire, mais alors un rire tonitruant, parce qu'il avait dit ça pour établir une sorte d'égalité dans la plaisanterie. Il avait dit le père Pâle, comme on disait le petit père Combe, comme on disait la présidente de la République, comme on dit nous, le père machin, etc. Il avait dit le père Pâle, puis c'était pas un révérend père du tout, c'était un docteur en médecine qui était en anthropologie physique et qui dirigeait ce laboratoire des parties molles. Et ça l'a fait rire, mais je vous assure, aux larmes. Et moi, j'étais rouge de confusion. Je serais rentrée sous terre.
La seule fois que vous l'avez vu rire?
C'est vraiment la seule fois où je l'ai vu rire. Je l'ai vu sourire dans des films, notamment dans des interviews, où on le voit pénétrer de ce désir de séduction intellectuelle, c'est-à-dire de convaincre son interlocuteur du bien fondé de ce qu'il dit. Et à ce moment-là, il est très éloquent. Il parle avec ses mains, il fait des gestes, il sourit, etc. Mais un grand rire franc, c'est la seule fois. C'est la seule fois. Et la plupart du temps, que je l'ai plutôt vu avec ce visage un peu fermé, cette bouche plutôt amère dont je parlais tout à l'heure.
Comment se passe la passation lorsque vous reprenez la direction du laboratoire d'anthropologie sociale? Claude Lévi-Strauss quitte ses fonctions. Comment le vit-il?
Claude Lévi-Strauss est un être, je disais, exquis, formidable. Et il n'a jamais voulu, je vous l'ai dit, créer d'école. Il n'a jamais voulu peser lourdement sur ses étudiants en les obligeant de travailler à sa manière, etc. Et quand il s'est arrêté net. À la direction du laboratoire. Il m'a dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour vous conseiller, pour vous écouter, pour s'il y a le moindre problème, mais à partir de maintenant, c'est vous, c'est plus moi. Et il a tenu parole. C'est ce que j'ai fait moi aussi quand je suis partie, parce que je considère que c'est effectivement comme cela qu'on doit procéder. Dire, on est là si vous avez besoin, mais surtout ne plus s'imposer. Quand je dis, il est parti, entendons-nous bien, Ça veut dire qu'il a quitté la direction du laboratoire, et si quelqu'un venait le trouver, il le renvoyait à la nouvelle direction du laboratoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était plus là physiquement. Il avait un bureau, il a eu un secrétariat, il a toujours un secrétariat d'ailleurs, et il a toujours un bureau au laboratoire. Sauf que maintenant, il ne peut plus y venir depuis quelques mois, mais avant, il y venait... Ces dernières années, il y venait plus qu'une fois par semaine. Avant, il y venait très régulièrement, sinon tous les jours.
Est-ce qu'il vous est arrivé de rentrer en conflit avec Lévi-Strauss ? Est-ce que vous l'avez déjà vu s'énerver, rentrer en conflit avec des personnes ?
Personnellement, je ne suis jamais rentrée en conflit avec Lévi-Strauss. Je n'ai aucun souvenir... Je n'ai aucun souvenir d'un moment quelconque de conflit. J'ai souvenir, au contraire, à la fois de son amabilité, de son affection, elle est réciproque, je dois dire, de la façon dont il a pris parole pour moi dans toutes les occasions importantes, quand j'ai eu des décorations, quand j'ai pris ma retraite, quand on m'a présenté un volume d'hommage. Il a toujours été là pour faire des discours d'une très très grande gentillesse. Donc j'ai pas souvenir de discussions avec lui, des discussions professionnelles sur des points théorique sur le terrain, c'était pas possible d'en avoir non plus, parce qu'il vous écoutait quand vous reveniez, quand j'étais plus jeune, que je revenais de terrain, comme c'était le cas pour mes camarades. On pouvait aller le trouver, il donnait des rendez-vous, il nous écoutait, mais il n'entrait pas dans des discussions sur ce qu'on avait fait. Le lieu précis pour les discussions, c'était à son deuxième séminaire. Il avait un séminaire où il parlait lui-même. Et ensuite, très vite, il a eu des séminaires où il faisait parler ses étudiants. Et c'était dans ces séminaires-là, ces étudiants ou ces jeunes chercheurs, qu'on venait exposer ses travaux et où lui, ensuite, prenait la parole pour discuter des travaux qu'on avait présentés devant un auditoire. Mais ça n'allait jamais jusqu'à s'attraper, enfin, mais il pouvait discuter. Je me souviens de discussions avec Robert Jolin, par exemple, qui pouvaient être assez acides, assez fortes, quand quelqu'un qui lui tenait tête. Mais je veux dire...
Il ne rentrait pas en colère.
Non, je ne l'ai pas vu rentrer en colère. Et je sais qu'il en a eu, parce que dans quelle manière elles se sont manifestées, je n'étais pas là pour le dire, puisqu'il y a eu, à plusieurs reprises du temps où il était directeur du laboratoire, des personnes qui ont été écartées du laboratoire, qui ont été évincées, qui ont été éloignées, parce qu'elles avaient eu un écart de comportement qui lui paraissait incompatible avec l'appartenance au laboratoire qu'il dirigeait. Ça s'est présenté pour au moins 3 personnes. Bon. Donc je pense que qu'il y a eu des explications, sinon orageuses, du moins des explications fermes dans son bureau. Mais elles n'ont pas transpiré. Il avait cette politesse de l'esprit et du cœur qui faisait qu'il était peut-être intransigeant, mais il n'en faisait pas une affaire publique.
Vous disiez qu'il avait à déplorer de vivre trop longtemps. Vous pourriez nous développer un petit peu cette opinion ?
Je ne pense pas que je puisse le développer parce que je n'ai pas une intimité assez grande. Je me fonde simplement sur des paroles qu'il m'a dites à plusieurs reprises.
Donc il vous a dit clairement qu'il avait à déplorer de vivre aussi longtemps ?
Oui, oui. Oui, oui, c'est parce qu'il me l'a dit que je le dis. Que pour lui, c'était la croix qu'il avait apportée, enfin, de vivre aussi longtemps qu'il n'y trouvait pas de bonheur. Oui, oui, oui. Je ne me souviens plus des termes exacts, mais il me l'a dit. Un jour, ayant des problèmes de santé depuis fort longtemps, et où je lui en touchais un mot parce que je devais sortir de l'hôpital, et que je disais, après la mort aussi d'une amie, que je me sentais vraiment vieillir, il m'avait dit, vous n'êtes pas âgé, vous ne savez pas ce que c'est véritablement que l'âge, comme moi je le sais, et comme je le regrette, j'aurais préféré mourir depuis longtemps. Oui, il déplore. Il déplore de vivre dans l'état où il est, c'est-à-dire avec des impossibilités physiques, puisqu'il ne marche pratiquement plus, mais il a toute sa tête, et dans un monde qui ne lui plaît pas, comme j'ai essayé de le dire.
Merci beaucoup. C'était l'ethnologue Françoise Héritier qui nous racontait quelques passages de vie à la chaire d'anthropologie sociale du Collège de France en 1982, juste après qu'elle ait succédé à Claude Lévi-Strauss.